lumière. Basse montagne. Pascal Claude.
En ces temps d'extinction, nous prenons de plus en plus conscience, nous les êtres humains, que nous ne sommes pas les seuls habitants, pas les seuls vivants sur Terre. Dès lors, quel lien tisser, imaginer, inventer avec les autres espèces, animales ou végétales? Quelle cohabitation possible? Et aussi, faut-il continuer à élever, tuer et manger des animaux? Ces questions, nous allons les déplier en altitude, là où pâturent des brebis, là où rôde le loup.
Ma vie a été bouffée par le loup.
C'est grâce au loup qu'il y a des bergers ou des bergères hein, maintenant.
Tout le monde vous dit « Ah, mais vous les élevez pour la viande. Je veux bien. »
Je suis favorable au fait qu'on exploite ou ne tue pas des animaux sans nécessité. Et la côtelette d'agneau, c'est une nécessité pour personne.
Vous écoutez Passe-Montagne, je m'appelle Pascal Claude et avec Elena Verrier, nous vous emmenons là où se cristallisent les questions d'aujourd'hui. Deuxième étape parmi les vivants.
Passe-Montagne sur la première.
Juin 2022, 2040 mètres d'altitude, la plus haute commune d'Europe. Nous sommes à Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes, en plein cœur du Queyras. Nous avons rendez-vous avec le berger du coin. Nous l'apercevons au loin, entouré d'imposants chiens blancs, des chiens de montagne, des patous, semble-t-il. Ils ont pour mission de protéger le troupeau contre les prédateurs.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Jean-Pierre. Bonjour, Pascal.
C'est un patou, ça?
Oui. Mais oui, il paraît. Ouais.
Il paraît?
Il est bien amical pour un patou.
Pourquoi? Ouais, regardez, ils sont tous là. Hein.
Et Léna est en train de le prendre dans ses bras. Presque.
Et celui-là, il a eu un an au mois de mars. Alors. C'est un peu plus jeune, mais l'autre, derrière, elle est un peu plus... C'est un peu plus... La plus réticente, c'est la jeune, là-bas. Ils sont pas méchants.
Ça fait combien de chiens?
Ben, j'ai 7 patous alors.
Pour un troupeau de combien?
Bon, c'est pas l'importance, là il y a entre 6 et 700 bêtes. Mais... Sultan, si c'est que pour parler du loup, c'est pas la peine, hein, parce que c'est un sujet, il y en a jusque-là.
Ras-le-bol du loup?
Non, du sujet.
On en parlera un peu quand même.
Oui, non, mais en parler, oui. Mais si c'est pour parler du travail complet, oui, ça va bien. Ça en fait exactement partie, mais pas que du loup. Parce qu'aujourd'hui, le loup, c'est un sujet à polémique à 100%. Donc. Le prénom Jean-Pierre, le nom c'est Humbert. Je suis un éleveur retraité, puisque maintenant c'est ma compagne qui a le troupeau de brebis. Mais j'exerce ce métier de berger en alpage depuis 1977. Je suis né là dans une exploitation agricole un peu plus petite, mais je suis né là et j'ai acheté mes deux premières brebis en 1978. C'est une exploitation tout à fait créée à 100%, quoi, là. Alors on essaie de... Enfin, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, d'essayer de produire le plus possible, on va dire, avec la nourriture naturelle. On va dire comme ça.
Et là actuellement vous devez être attentif à quoi?
Vous, quand vous mangez, est-ce qu'on vous porte la nourriture pour la semaine sur la table? Non.
Non.
Et bien là, c'est mon travail. Le travail d'un berger, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça a été pâturé. Hein. Donc là, elles voudraient retourner au parc où elles étaient cette nuit. Mais moi, je veux les envoyer à l'ombre dans les arbres là-bas. Donc, vous voyez, il ne faut pas revenir où ça a été pâturé. Parce que sinon, on va obtenir du surpâturage et on va tout détériorer. Donc voilà, le rôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais m'arrêter là, demain, je vais m'arrêter un peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà. De façon à ce que tous les jours, elles aient quelque chose de nouveau quoi, à manger. Sultan ! Viens ici, viens ! Viens !
Et ça vous arrive de perdre le contrôle du troupeau ?
Tout peut arriver, à ma vie.
C'est
dangereux de perdre le contrôle. Si on est là, non. Si on perd le contrôle, c'est qu'on n'est pas sur place. Quoi. Non, c'est impossible. Quoi. Ou alors, comme là, on est en train de discuter. Donc,
on peut avancer.
Mais on va avancer. De toute façon, on fait n'importe quoi, mais sinon, on perd. c'est grave de perdre le contrôle. Mais après, un troupeau, il est normalement, quand il est conduit par la même personne, on va dire presque qu'il s'autogère, quoi. Vous savez, les animaux sont sûrement un peu moins cons qu'un être humain et elles ont un point de repère, c'est là où elles dorment. Donc elles dorment toujours dans le même secteur. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, elles reviennent vers l'endroit où elles ont dormi. Donc elles voudraient retourner là-bas. C'est pas plus compliqué. On tourne, on gravite, quoi. On démarre à un endroit et après on va en agrandissant le cercle là au milieu, quoi. C'est ce que nous on appelle ça dans notre jargon, on appelle ça la soupée. Mais la soupée, c'est le repas, quoi, de la journée. Donc aujourd'hui je vais là, demain je vais là et ainsi de suite, quoi. Pour qu'elles aient toujours de l'herbe nouvelle à manger, quoi. Voilà. Parce que si on laissait n'importe quoi, au bout d'un moment c'est tout piétiné. Voilà.
Et là on va avancer un petit peu avec vous. Vous avez un grand bâton.
Vous savez pourquoi j'ai un grand bâton? Parce qu'on voit la qualité du berger à la longueur du bâton. Donc je prends toujours un grand bâton pour me dire que je suis bon.
Il est rose?
Oui, il est rose. C'est de la récupération des balises des pistes de ski. Parce que c'est toujours droit, c'est léger et c'est relativement solide.
Ouais. Et donc vous êtes un excellent berger puisque vous avez un immense bâton.
Voilà, ouais. La seule chose, c'est quand je m'appuie et que je suis en aval, vous voyez le bâton à quoi il me sert? C'est ma troisième patte.
Ah ouais, ouais.
Voilà.
Mais à quoi est-ce que l'on sait dire que le berger est un bon berger?
C'est elles qui le disent, pas moi. C'est elles qui le disent. Quand vous avez quelqu'un qui... On ne peut pas dire un bon berger au bout d'une semaine, c'est pas possible. C'est au bout que nous, quand les bergers partent en alpage pour deux ou trois mois, voire quatre mois, à la fin de l'été, on voit l'état des animaux. Et donc l'état, on va dire, l'état d'engraissement, hein, si on a des animaux qui sont gras, mais aussi l'état psychique. Si vous avez un animal qui est stressé, vous dites le berger, il a un problème. Les animaux ne trichent jamais. Les animaux, c'est le reflet de la personne qui s'en occupe. Un chien, n'importe quoi. C'est comme ça.
Jean-Pierre Imbert remarque au loin la présence d'un randonneur. Immédiatement, il tient à l'œil ses patous.
Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est là au milieu. On est obligé de surveiller par rapport aux patous qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et comme personne ne sait lire les panneaux, quand on est en vacances, on oublie tout. C'est un peu dramatique, mais bon. Nous, les chiens, bon, on essaie d'avoir des chiens qui réagissent gentiment, mais bon, quand vous avez les gens qui le font le contraire,
ouais.
Eux, ils font leur boulot, hein. Faut pas vous rêver.
Hein. Il y a déjà eu des accidents?
Bon, ça peut arriver, hein. Ça, de toute façon... Après, vous avez des gens qui ont peur, il y a tous les cas de figure, hein, de toute façon. Vous avez des gens qui agressent les chiens, ils ont des bâtons, ils menacent le chien, donc automatiquement, l'autre, il se défend, hein, ça c'est garanti. Hein.
Il y a déjà eu des morsures, alors?
Ah ben, ça c'est fréquent, de toute façon. Mais après, je dirais que c'est pas toujours la faute du chien.
Le berger observe avec attention son environnement.
L'autre jour, là-bas dans le bois, je suis tombé sur un jeune chevreuil, là, tout petit, qui avait peut-être 2 jours. Ben, vous passez une heure à le regarder, à voir comment il réagit. Voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça, vous vous dites, ben voilà... Vous voyez, là on voit du serpolet, bon ben on se dit ben c'est pas normal qu'il soit en fleur à ce moment-là. Là la végétation elle a un mois d'avance. Notre boulot il est là avec la nature, avec on ne travaille pas à la montre, on travaille au soleil, quoi. C'est tout. Je veux dire, le travail, il n'y a rien de figé, quoi. On n'est pas à la chaîne, on ne peut pas dire je les sors à 8h pour les rentrer à 11h ou je les sors à 8h pour les rentrer à midi. Ça, Dans ce travail-là, ça n'est pas possible. Parce que, je ne sais pas moi, aujourd'hui il fait très chaud, il va falloir les sortir à 7h pour les rentrer éventuellement à 10h30. Demain il pleut, je peux les sortir qu'à 9h pour les rentrer qu'à midi. Vous voyez, c'est pas. Il faut savoir s'adapter en fonction d'eux. Après, les brebis, c'est pareil. Hein. Le troupeau, il est là en train de pâturer immobile. Elle mange. Vous n'allez pas déranger ce troupeau, donc vous allez faire une demi-heure ou une heure de plus, quoi. C'est ça. Et puis après, un jour, elle vous casse un peu les pieds, ben, vous dites, oh, tiens là, c'est terminé. Bon, là, elles font n'importe quoi. Va devant. Là, il n'y a plus personne qui conduit. C'est le... Hey, va devant. Viens ici, Pépone. Viens ici. Sultan. Ah, c'est une partie à deux. Là. C'est la course à deux.
Comment savez-vous si votre troupeau est au complet ou pas?
On a nos repères. Hein. On sait celles qui sont devant, c'est celles qui sont derrière. Et voilà. Hein. Elles se suivent, hein. Logiquement, ça se suit.
Mais vous les reconnaissez?
Ben heureusement.
Elles se ressemblent, non?
Ben pour vous, pas pour moi. Non, mais ça se discute pas, ça. Mon père, il entrait dans la bergerie, il disait, bon, ben celle-là, c'est la fille de celle-là, celle-là, c'est la fille de machin. Et voilà, c'est comme ça. Moi, je les connais pas toutes à 100%, mais une bonne partie quand même, je sais. C'est comme ça.
Et quand elles quittent le troupeau pour l'abattoir?
Ben, c'est comme ça. Il y a un moment où il faut que ça se passe. Hein. Si vous voulez, le jour où elle naît, un agneau qui est beau, qui a une bonne mère et tout, il va, on va dire, pas à la naissance, mais quelques jours après, il change, pour moi, il change de case. Il vient dans les préférés. Voilà. Et bon, il va faire sa vie. Hein. Mais sa vie, elle peut être courte, elle peut être longue, on ne sait pas pour certaines. Et au moment où vous avez décidé de vous en séparer, hein, parce qu'on ne peut pas toutes les garder, on ne peut pas toutes les laisser mourir sur place, à ce moment-là, ben, on enlève un peu l'amitié, c'est plus le même regard. Quoi. C'est tout.
Parce qu'il y a une amitié avec les bêtes?
Ah oh, ben sûr. Vous pouvez y aller, vous les appelez, elles arrivent, hein. Elles connaissent. Hein. Quand j'arrive au parc le matin, je les appelle, ça y est, c'est parti. Hein.
Il n'y a pas parfois le... Ah, encore votre téléphone, vous êtes un berger ultra connecté.
Mais c'est la patronne qui doit appeler. Oui, au parc. Ouais. Mais là où je vais les mettre à midi.
La patronne qui vient aux nouvelles?
Ouais, elle viendra pour cet après-midi, c'est elle qui est de garde. J'ai une réunion.
Hey! Hey, tout ça! Oh! Viens ici! C'est pas ici! Hey! C'est pas mieux! Allez!
Vous disiez tout à l'heure que la nature avait un mois d'avance. Ça a quelles conséquences pour le troupeau?
Ben pour le troupeau, ça peut dire que peut-être qu'au mois d'octobre, il n'y aura plus assez de nourriture ou une nourriture qui est pauvre. Quoi. Donc, ben voilà.
Et dans ces cas-là, vous devez compléter avec d'autres sources de nourriture?
Là, nous, on a la chance, entre parenthèses, c'est que nous, on n'a pas de bêtes pratiquement qui vont faire les petits en octobre. Donc, elles vont pouvoir vivre sur leurs réserves. Quoi. Mais après, le taux de croissance d'un agneau, il n'est plus du tout le même.
On a besoin des moutons et des chèvres pour entretenir les alpages?
On a besoin d'un animal, point. C'est une obligation. Parce qu'un animal, en un seul passage, fait plusieurs choses. Donc il va brouter l'herbe, c'est ce qui remplacera la tondeuse à gazon. Il va s'engraisser, donc production de viande. Avec ses pattes, il va creuser le sol là au milieu, ce qui fait que les graines qui sont passées de l'année en cours ou avant sont enfouies. Et comme il rejette des excréments, automatiquement, c'est l'engrais naturel.
Certains disent que les animaux abîment les alpages.
Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le surpâturage est négatif, le sous-pâturage l'est encore plus. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est le rôle du berger. Voilà, c'est tout.
Et s'il n'y a plus de bêtes ici dans les alpages pendant quelques mois, quelques années, ça se transforme comment ?
Quelques mois, ce n'est pas gênant, puisqu'il y a quelques mois, il n'y en aura pas.
Mais disons quelques années.
Mais quelques années, on aura ce que je viens de vous expliquer. Vous aurez ce qu'on voit dans le talus. Vous voyez, vous n'avez plus que une touffe d'herbe là, une touffe d'herbe là. Vous voyez, mais là au milieu, il n'y a plus rien. Voilà, vous aurez des grandes surfaces qui vont être comme ça, qui seront détériorées.
Ouais. Et donc moins de diversité.
Moins de diversité, moins de, donc aussi bien dans les insectes que dans les fleurs. Quoi.
Nous prenons congé de Jean-Pierre Humbert pour quelques minutes. Et nous nous rendons en forêt, quelque part dans le massif du Vercors. Et je ne serai pas plus précis, histoire de protéger notre interlocuteur.
Ah oui, j'aime pas trop dire où j'habite. Les gens du coin le savent, bien sûr, mais... Parce que je suis l'objet de menaces, en fait, concrètement.
Pierre Rigaud est militant anti-chasse et il est la cible de plusieurs chasseurs.
Menacé de mort, menacé d'agression physique, et agressé même, j'ai été agressé plusieurs fois près de chez moi. Il y a un chasseur qui est venu jusqu'à ma porte en tenue de chasse, après la chasse, avec une balle de fusil entre les mains, qui a toqué à la porte. J'ai ouvert, il m'a dit « La prochaine fois, c'est entre tes deux yeux, si tu continues à parler de la chasse. » Donc, ils ne me font pas la vie facile, mais enfin, ça va.
Pierre Rigaud est écologue. C'est un amoureux des plantes et des animaux.
Les pinsons des arbres.
Il nous invite à tendre l'oreille et à écouter le chant des pinsons des arbres.
Il y a deux pinsons des arbres mâles. Qui se répondent, qui sont en concurrence. Pas grand chose d'autre, parce qu'on est au milieu de la journée, il fait chaud, il y a du vent, donc les pires conditions pour que les oiseaux passeront aient envie de chanter, à cette époque. Parce qu'en fait, ils se sont égosillés toute la matinée, partout. Voilà, c'est à cette période, c'est le moment des chants, le matin. Et après, c'est la pause en milieu de journée, mais il y a quand même des pinsons qui sont les oiseaux hyper communs, dans toutes sortes de forêts, y compris comme des forêts de montagne, comme ici, puisqu'on est dans une hêtraie, avec des sapins et d'autres conifères. Une forêt typique des milieux frais, des Alpes du Nord ou parfois du Sud, ou un peu des massifs périphériques comme ici. Et pour autant, les oiseaux qu'on entend sont des oiseaux très communs, parce que les oiseaux plus rares d'ici se taisent pour le moment. Pas de chance pour vous. J'essaie d'écouter en même temps que je vous parle s'il y a d'autres oiseaux qui s'expriment, à part les pinsons, tout de suite, là. Les mésanges. Et encore des pinsons.
Si nous avons rejoint Pierre Rigaud, c'est parce qu'il considère que les moutons ne prennent pas forcément soin de la montagne.
Les moutons à moyenne altitude, c'est pour les mettre que souvent les humains ont déboisé. Donc il y a encore ou pas des moutons aujourd'hui à certains endroits. C'est le pastoralisme et l'élevage en fait des moutons, l'élevage plus généralement, qui a permis que subsistent ou qu'existent ou que se créent certaines clairières ou prairies, mais à plus haute altitude, là où c'est la pelouse alpine qui se développe de façon spontanée, il n'y a pas besoin des moutons pour entretenir ce paysage-là. Contrairement à un discours qui est un peu fallacieux, qui consiste à dire que les moutons entretiennent la montagne.
Au-delà d'une... Que les bergers que nous avons rencontrés nous disent.
Alors ils ont raison parfois à certaines moyennes altitudes et dans certains contextes. Mais sinon, en fait, quand on met des moutons au-delà de, par exemple, 2000-2500 mètres, il n'y a aucun apport positif sur le plan écologique, parce qu'en fait, l'herbe qui pousse là, au contraire, elle est plutôt sensible au piétinement. Le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de moutons, quand vous allez regarder en été, c'est raclé.
Mais en général, ils font attention à ça, les bergers, à éviter justement le surpâturage.
Alors, je pense, c'est même certain que les bergers ou les éleveurs, ils font attention à avoir suffisamment de ressources pour leurs animaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement une attention sur le surpâturage en termes de conséquences écologiques. C'est un peu différent. Parce que vous pouvez considérer qu'il y a assez à manger pour vos bêtes, sans tenir compte du fait que ça dégrade la végétation de manger trop. Et donc, le sujet est complètement tabou, mais si vous arrivez en off à avoir des gens qui travaillent dans les parcs nationaux, Écrins, Mercantour, ils vous diront qu'à 3000 mètres d'altitude, quand ils vont faire des relevés sur la végétation, il n'y a plus rien. En été, c'est raclé. Parce qu'il y a des endroits où il y a des panneaux qui vous disent « Vous écartez pas en tant que promeneur du sentier pour pas abîmer la flore. » Et heureusement, c'est bien que ça existe, ce panneau. Et à côté, vous voyez 2000 moutons 4000 moutons qui broutent toute la journée. Donc, c'est assez net en fait, de voir que la végétation, en certains endroits, elle subit l'impact d'un pâturage qui est vraiment néfaste sur le plan écologique. Mais ce que je dis là, c'est pas valable partout. Ça dépend du contexte, de la flore locale et de l'historique.
Donc, dans certains contextes, le pastoralisme nuit à la biodiversité.
Ah oui, c'est assez tabou de le dire. Et c'est assez, peut-être iconoclaste, mais dans certains contextes, le pastoralisme nuit à la biodiversité, mais pas toujours.
Mais dans quel cas est-ce qu'il y a des bienfaits apportés par la présence des animaux élevés?
Alors, le bienfait pour la biodiversité, en rappelant quand même toujours que les humains, ils n'ont pas créé des espèces, pas créé des plantes, des oiseaux, etc. Donc ça préexistait. Simplement, on a modifié certains équilibres. Et parfois, le fait de mettre des moutons, ça a fait en sorte qu'il y ait une mosaïque d'habitat, comme on dit. C'est-à-dire des endroits où, en alternance, il y a par exemple de la forêt et certaines prairies issues d'un déboisement pour y mettre des moutons. Donc dans ce cas-là, quand la prairie est issue d'un déboisement ancien et que s'y développent ensuite certaines plantes qui attirent certains insectes et certains oiseaux, mais en fait, on a historiquement, nous les humains, par cette activité-là, c'est vrai, favoriser une certaine forme de biodiversité. Et on peut considérer aujourd'hui que c'est plutôt bon, globalement, en termes de biodiversité. Mais en haute montagne, ça ne marche pas.
Quelques pas plus tard, Pierre Rigaud développe un autre argument.
Et là encore, là, je ne vous parle que de l'aspect strictement écologique, hein, sans parler de la finalité de l'élevage des moutons dans les Alpes, qui est essentiellement pour faire des côtelettes et de la viande d'agneau. Ça, c'est un peu une autre question que celle strictement écologique, mais je la trouve cruciale de mon point de vue aussi. C'est-à-dire, on a l'image bucolique, la carte postale du berger ou de la bergère qui mène son troupeau de blancs moutons. C'est très beau, c'est très joli. On aime tous voir le chien qui ramène les moutons, etc. La vague de moutons sur la montagne. C'est de l'élevage pour la viande. Hein. C'est-à-dire qu'après, ces mêmes moutons, ils sont envoyés, ou bien leurs agneaux, c'est des brebis, ils sont envoyés dans les abattoirs. Vous allez à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est en bas des montagnes. C'est dans la zone industrielle de cette ville. Vous approchez à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Ça pue la mort, au sens fort du terme. Ça pue la mort, c'est-à-dire on y amène chaque année là-dedans 500 000 moutons, brebis et agneaux, hein, tout confondu, pour les tuer dans une zone industrielle, pour faire de la viande. Et c'est ça, la finalité, c'est ça. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle avec des bergers, même quand ils sont super accueillants ou des bergères, c'est vrai que dès qu'on aborde ce sujet-là, il y a une petite gêne, je trouve.
Ces mêmes bergers qui nous parlent de leur amour pour leurs bêtes, de leur attachement.
L'attachement, je pense que c'est le cas. L'amour de leurs animaux qu'ils vont faire tuer, puisque c'est l'essence même de l'élevage de moutons en particulier, et en particulier les moutons à viande dans les Alpes. C'est pareil quand il y a des animaux élevés pour le lait, puisque finalement, les brebis laitières, il faut bien que les agneaux partent quelque part, donc c'est à l'abattoir. Pour faire du lait, il faut des agneaux, et les agneaux, on les tue aussi pour la viande. Donc, je trouve qu'il y a, une façon assez terrible, de mon point de vue, de considérer l'amour pour ces animaux-là, parce que quand on aime ces animaux, on ne les tue pas. Si vous avez un chien que vous l'aimez, vous ne l'envoyez pas à l'abattoir, au bout de 2-3 ans, parce que vous l'avez fait naître pour ça.
Vous êtes contre l'élevage, en fait.
Je suis favorable au fait qu'on exploite ou ne tue pas des animaux sans nécessité. Et la côtelette d'agneau, c'est une nécessité pour personne. Et je pense que ce sujet-là, on ne peut pas le séparer du sujet strictement écologique. Au départ, mon approche, moi, elle est complètement écologique. Enfin, je viens de ce milieu-là, des gens qui s'intéressent aux oiseaux, font des inventaires, des expertises en fait, sur la faune sauvage. Mais si on parle d'animaux sauvages en se réjouissant du fait qu'il y a un passereau qui chante, du fait qu'il y ait tel mammifère dans les sous-bois, on s'intéresse aux animaux, en fait, aux vivants, à ce qui vit autour de nous, et que notre considération, notre intérêt s'arrête là où on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire la finalité de l'élevage des moutons, je trouve qu'on on n'est pas cohérent, en fait. Donc, effectivement, je suis plutôt opposé au fait qu'on fasse naître et tue ces animaux alors qu'on n'en a pas besoin, parce que la viande, particulièrement les moutons, c'est quand même pas indispensable pour être en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer l'apport que ça peut avoir dans certains cas pour la biodiversité, je pense qu'il faut être complet.
Ce qu'on entend aussi régulièrement, c'est que sans les bergers, sans l'élevage, on aura une biodiversité en baisse parce qu'il y aura des arbres partout.
Alors, l'élevage, c'est complètement vrai, a façonné les paysages européens, français, jusqu'à une certaine altitude, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce raisonnement-là et ce fait-là est inexact au-delà d'une certaine altitude de 2000 ou 2500 mètres, selon les endroits, l'histoire. Mais c'est absolument vrai que par l'élevage, pas forcément le fait qu'il y ait des animaux eux-mêmes, mais le fait qu'on ait déboisé pour ça et qu'on ait fait se développer des pelouses ou des prairies, ça a généré une forme de biodiversité. Et maintenant, dans certaines prairies agricoles, d'origine agricole, il y a des oiseaux qui nichent et qui ne nichent plus ailleurs parce que l'impact humain il était si fort que, et l'adaptation de ces oiseaux ou de ces animaux sauvages a été telle qu'ils se sont adaptés au paysage qu'on a façonné. Et aujourd'hui, si on modifie le paysage en enlevant par exemple ces prairies complètement, ben, ça va être catastrophique pour la biodiversité, il faut le reconnaître. Sur un plan écologique, c'est absolument exact. Par contre, dans mon point de vue, il faudrait arriver aujourd'hui, en étant un petit peu moderne, à déconnecter entre l'intérêt pour la biodiversité et la finalité des animaux. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui mettent des animaux dits bétail ou domestiques dans les prairies, des pelouses, sans que la finalité ce soit l'abattage, sans que ce soit une forme d'exploitation. Il y a des gens, on en connaît tous, hein, des gens qui ont des ânes dans un pré, des chevaux dans un pré, des gens qui ont des moutons, même quelques petits moutons. Et bien sûr que si on n'a pas un élevage productif, ça modifie les surfaces, ça modifie le paysage. Mais je pense qu'on doit réfléchir à comment concilier le maintien de la biodiversité lié à une forme d'agriculture et d'autre part, le respect pour les animaux, c'est-à-dire revoir la finalité du maintien d'animaux dans des prairies, par exemple.
La première, Passe-Montagne.
Et nous revoici à Saint-Véran, aux côtés du berger retraité Jean-Pierre Imbert. Son grand bâton rose à la main et ses yeux constamment dirigés vers son troupeau et ses chiens. Et je me permets de lui suggérer d'aborder un sujet qu'il avait, dans un premier temps, préféré laisser de côté.
Bon, il faut quand même qu'on parle, vous savez.
Oui, en avance un peu, je les vois parce que... Oui, mais vous pouvez.
Le loup, donc. Sujet hautement polémique, disiez-vous.
Oui. Le problème, c'est que tous les gens qui en parlent connaissent rien.
C'est tout. Vous allez nous expliquer, alors.
Comment vous expliquer ? L'expliquer, c'est le vivre. C'est pas pour nous, c'est un handicap. Ça risque d'être le changement de notre profession, ça risque d'être plein de choses, quoi. Après, le loup, il est là. C'est sûr qu'en photo ou dans un parc, il est joli. Moi, ça me gêne pas. C'est pas là le problème. Mais quand vous vivez avec toute l'année, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mmh.
Vous l'avez croisé quand pour la première fois ici ?
Moi, en 97, je suis arrivé le matin, il y avait 49 au tapis et 10 égorgés, 49 au tapis. 8 septembre 97.
Date indélébile.
Indélébile. Et pour vous dire, c'est tellement indélébile que l'identification des animaux, c'est dans un sachet qui doit partir avec moi. Vous voyez le troupeau qui est là ? Je vous ai dit qu'il y avait entre 600 et 700 bêtes. Et bien, les deux tiers du troupeau sont déjà passés entre les dents du loup. C'est pas que de... que du cinéma, hein. Vous êtes là, minuit, vous entendez les chiens gueuler, vous entendez les brebis bouger dans le parc. Et allez, vous sortez du lit, vous repartez.
Et c'est trop tard ?
Ben, trop tard ou pas trop tard, mais en attendant, sortir du lit, je ne sais pas si ça vous tenterait de... voilà. C'est le problème, il est là, parce que nous, les brebis, il y a un côté folklorique à regarder, mais c'est aussi notre gagne-pain. Donc chaque fois que vous avez une brebis qui est égorgée, c'est aussi... On vous dit, on vous donne de l'argent, oui, c'est sûr. Mais en attendant, si elle a un agneau, elle ne le nourrit plus, donc l'agneau, soit on le complémente avec le biberon, soit il meurt. C'est pas toujours top, hein. Au bout d'un moment, psychologiquement, c'est difficile à vivre, hein. Vous arrivez le matin, vous en avez 10-20 au tapis, ça, c'est pas... Il faut bien se mettre dans la tête que notre troupeau, tout le monde vous dit, ah, mais vous les élevez pour la viande. Je veux bien, je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on les élève pour ça. Je conteste pas le système. Mais malgré tout, il y a ce côté qui arrive là au milieu et il choisit pas, on va dire, la bête mauvaise, il va pas choisir n'importe quoi, il va prendre une bête. Parce que, et encore s'il en prenait qu'une, c'est pas dramatique, mais c'est l'ensemble, c'est quand il va arriver là-dedans, il va se jeter sur le troupeau, elles peuvent partir dans les cailloux, dans les arbres, vous avez les pattes cassées, vous avez tout ce que vous voulez derrière. Et ça, qui c'est qui se le récupère ? C'est le berger ou l'éleveur, peu importe. Je sais pas moi, si vous êtes amateur de bouquins et vous avez une souris qui vient dans votre bibliothèque, qu'est-ce que vous faites ? Allez, dites-moi, c'est vous qui allez me répondre. Allez-y, qu'est-ce que vous faites ?
Je la caresse.
Moi je la caresse pas, je vous dis. Et vous ne me répondez pas parce qu'on est dans le même cas. On est dans le même cas tous les deux. C'est le problème, il est tout simple. La souris, elle peut être jolie. Hein. Mais
la cohabitation est impossible.
Impossible. C'est impossible.
Impossible, vraiment.
Beaucoup d'éleveurs vous diront que la cohabitation est impossible. Bah, dans les faits, ça fait 25 ans qu'il y a des loups en France. Et l'élevage n'a pas décliné à cause des loups. Donc, ça rend l'élevage des moutons en montagne notamment beaucoup plus compliqué techniquement, beaucoup plus difficile. Ça modifie la façon qu'on a de travailler ces personnes. Mais ça ne fait pas disparaître l'élevage. Donc factuellement, la cohabitation, comme on dit, elle existe en fait.
Et ça fait des morts.
Ça fait environ 10 000 ovins tués par des possibles loups chaque année. Je dis possible loup parce que c'est par défaut que l'administration considère que c'est un loup possible quand on n'a pas la preuve que c'est pas un loup. Donc le doute bénéficie à l'éleveur. C'est comme ça, tant mieux. Donc je pense qu'il faut mettre ça en relation, si on veut parler chiffres, avec le nombre d'ovins qui meurent d'autres causes, qui est quand même beaucoup plus élevé, qui est autour de 400 000, 500 000 par an pour la France, qui sont les maladies, les dérochements, sans lien avec les loups. Et je ne vous parle même pas des 3 à 4 millions d'ovins qui meurent dans les abattoirs.
Nous revoici dans le Vercors, en compagnie, vous l'aurez sans doute reconnu, de l'écologue Pierre Rigaud.
Tant mieux que, au moins dans certains massifs, la présence des loups soit devenue banale, de mon point de vue, parce qu'ils font partie de cet écosystème, comme nous, comme plein d'espèces animales ou végétales, et qu'on les avait éliminés, ils sont revenus tout seuls. Il n'y a eu rien à faire pour qu'ils reviennent, juste les laisser un tout petit peu tranquilles, et ils ont réinvesti les lieux. Et là, ça fait au moins 20, 25 ans qu'il y a des loups ici, plusieurs groupes sociaux, plusieurs meutes, quoi. Donc là, on est sur le territoire d'une des meutes. Des loups qui certainement nous entendent de quelque part, nous observent de quelque part, qu'on ne verra pas.
Là, en ce moment ?
Donc, ils vivent ici. Donc, leur territoire étant très grand, plusieurs, peut-être...
Des hectares ?
Plus que quelques hectares, oui. C'est 100, 200 km². Enfin, ça fait l'échelle d'une vallée, d'un massif, enfin c'est très très grand, enfin tout ce qu'on voit ici.
Alors il y a peu de chances qu'ils nous entendent là.
Non, c'est vrai, il y a peu de chances qu'ils nous entendent. Peut-être. Nous humains en général, quand on est sur les chemins, quoi, parce qu'en fait ils connaissent très bien évidemment les lieux, puisque c'est là qu'ils vivent et donc ils savent où sont les humains en général. Et même quand on est passé, ils nous repèrent après, quoi. C'est-à-dire ils sentent qu'on est passé sur le chemin. Voilà, comme des chiens plus aguerris, voilà, ni plus ni moins.
Vous les avez déjà croisés, vous ?
Ah, ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Notamment pas très loin. Alors des fois, c'est des choses qui relèvent de l'heureuse surprise, je dirais. Juste par hasard, en fait, c'est à force de fréquenter les lieux, le matin très tôt, un loup observé qui trottine le long de la lisière. Le premier dans le coin, c'est il y a quelques années, va pas très loin d'ici, mais peu importe, sur notre lisière. La nuit, parfois, sur la route, dans les phares de la voiture, c'est moins rigolo. Mais c'est juste à force d'être présent sur place, en fait. Il y a des gens qui cherchent à les observer, qui posent des appareils. Je le fais aussi, vous savez, pour prendre des photos la nuit quand l'animal passe devant. Et puis, ceux qui sont le plus présents sur place en permanence, ce sont eux qui ont le plus de chances de les voir. C'est vrai que les bergers ou les bergères font des observations de temps en temps, quoi.
Ouais, mais ça leur plaît pas.
Ça dépend des bergers ou des bergères. C'est grâce au loup qu'il y a des bergers ou des bergères, hein, maintenant. C'est-à-dire, c'est pas grâce au loup qu'il y a des élevages de moutons, mais le fait qu'il y ait des gens qui gardent les moutons, en France, comme dans d'autres pays d'Europe, c'est par la présence des loups que le travail et le salaire des bergers employés par les éleveurs est subventionné. Il est subventionné quand il y a des loups. Donc, factuellement...
Quand il y a du carnage.
Quand il y a des loups. Non, factuellement, il n'y a jamais eu autant de bergers que depuis qu'il y a des loups, parce que en zone de présence de loups, le salaire du berger, il est financé à 80-90%. Donc l'éleveur qui est propriétaire du troupeau, qui ne pouvait pas avant embaucher un berger ou une bergère pour s'occuper du troupeau tout l'été, il le peut parce qu'il y a des loups. Et si vous creusez en parlant avec des bergers, des bergères, c'est ce que je fais régulièrement en parlant avec elles ou eux, ils me disent « bah oui, mais moi je suis là parce que c'est grâce aux loups, financièrement, administrativement en fait ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents d'avoir des prédations de loups, pas du tout, je ne sais pas tout ce que je dis. Hein.
On ne les a pas encore rencontrés, ces bergers-là.
Mais c'est bien parce qu'il y a des loups qu'il y a des bergers dans la plupart des endroits dans les Alpes en France aujourd'hui.
Et donc, Pierre Rigaud constate qu'il y a plus de bergers en montagne aujourd'hui que jadis. Parce que...
Avant, tout simplement, il y a beaucoup de troupeaux qui n'étaient pas gardés. C'est-à-dire que vous alliez sur un alpage, le propriétaire du troupeau venait mettre les moutons, qui divaguaient plus ou moins, il revenait régulièrement. Il n'y avait pas besoin d'une présence humaine permanente, en fait. Aujourd'hui, pour pouvoir empêcher ou réduire les attaques de loups sur les moutons, il faut qu'il y ait un humain qui s'en occupe. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des bergers et bergères qui dorment la nuit dans les cabanes d'alpage, que les cabanes d'alpage sont rénovées, avec de l'argent public aussi, entre parenthèses. Je pense que j'essaie de dire ça sans jugement, mais c'est vraiment avec de l'argent public que non seulement le salaire des bergers, mais même les cabanes d'alpage sont rénovées, que les filets de protection, ces petites clôtures qui ne sont pas forcément les plus adaptées, mais bon, qui sont celles qui sont financées par l'administration, c'est grâce à la présence des loups, ou à cause, hein, dites comme vous voulez, mais en tout cas, factuellement, c'est ça. Je ne dis pas que grâce aux loups, les éleveurs roulent sur l'or. Surtout, ne me faites pas dire ça. Mais le fait est que non seulement le salaire des bergers est payé, mais les moyens de protection sont subventionnés, mais les pertes, comme disaient les éleveurs, de brebis tuées par des possibles loups sont payées aussi, sont indemnisées. Et vraiment, j'insiste, je ne suis pas du tout en train de dire que les bergers... ont la belle vie, ils font un métier facile et que protéger les moutons contre les loups, c'est facile. Non, je pense que c'est un métier très difficile, que prémunir les attaques, c'est très compliqué. Mais le fait est que la présence même et le travail de ces personnes-là est rendu possible par la présence des loups.
Pas de cohabitation possible entre les loups et les moutons, nous disait il y a quelques minutes Jean-Pierre Imbert.
Je peux vous poser une question ? Je n'y connais rien, hein. On est bien d'accord ? Attendez-moi.
Alors je me suis permis de lui livrer quelques éléments collectés à propos des dispositifs mis en place en Italie, là où une coexistence entre les loups et les brebis semble poser moins de problèmes. La méthode italienne, des clôtures électrifiées d'1,5 mètre, une présence humaine permanente avec les bêtes et des troupeaux de plus petite taille.
La taille des troupeaux, pourquoi la taille des troupeaux ? Parce qu'on n'est pas dans la même production. L'Italie, les trois quarts du temps, c'est des productions laitières. Donc, les troupeaux sont plus petits.
Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir des troupeaux plus petits ?
Et vous payez comment ? Ici, vous faites le tour du Queyras, je suis le plus petit troupeau. Le plus petit. Parce que la main-d'œuvre, quand vous payez un salarié, je dis un, mais sur un alpage, il en faut au moins deux, à 2500 euros plus les charges, c'est pas surpayé, je veux dire, par rapport au boulot, je ne parle pas de salaire, mais 2500 plus les charges, comment vous arrivez à sortir le salaire ? C'est dur.
Et la présence humaine 24 heures sur 24
Vous travaillez, vous, 24 heures sur 24 ? Personne ne peut travailler 24 heures sur 24. Moi, je dis, la personne qui veut du loup, elle n'a qu'à venir avec moi. Moi, j'ai bouffé ma vie, ou ma vie a été bouffée par le loup. En 97, elles ont sauté le pic qui est là-haut. J'ai gagné zéro pendant un an. Et vous vivez avec quoi ? Mon ex-femme, les gamins, on s'est retrouvés aller deux fois par semaine chez le psy. Ça va, ouais. C'est ça le problème. C'est facile de dire qu'il faut du loup. Oui, mais le loup, moi j'ai proposé un jour au préfet à l'époque, et je vous dis le nom, Jean-François Savier, à l'époque, dans une commission, j'ai dit, si vous voulez, je vous montre le dossier. Moi, dans les balcons de Saint-Véran, on parque tout. On met du loup, comme ça les gens pourront admirer depuis le haut ou depuis le bas. Et moi, je vous fournis toutes mes vieilles brebis. Au lieu de les vendre 20 euros aux négociants, on les met là vivantes et le loup s'amuse. Le préfet il me dit, mais vous voulez la révolution ? J'ai dit, alors, pour le commun, se faire égorger une brebis, de voir égorger une brebis, c'est la révolution. Mais nous, on est les rois des camps parce qu'il ne choisit pas la vieille, il prend ce qu'il veut, lui. L'année dernière, Annick va garder dans le bois là-bas. Dans l'après-midi, elle m'appelle et me dit, je ne sais pas ce qui se passe, je viens de trouver deux agneaux mangés. Ben, j'ai dit, cherche pas, hein. Il est par là à travers. En fait, il y en avait 8 de mangés. On ne retrouvait plus que la tête et un bout de peau. Mais le temps qu'on passe à chercher, on a appelé les copains et tout, ça fait à peu près une journée. Et ça, c'est zéro. Zéro. Voilà.
Je vais vous faire travailler. Je vais vous faire travailler. Aïe, aïe, aïe.
Comme ça, vous aurez la réponse toute faite par vous-même par rapport à ce que vous venez de me dire sur les clôtures. Nous, on travaille avec des clôtures de 90 cm de haut. Alors, le principe, voilà une clôture de 90, c'est la même que l'on déplace. Donc, pour nous, on ramasse, on essaie de voir le milieu du piquet et on ramasse un piquet, ouais, on laisse traîner. Alors, allez-y. Il y a 50 mètres, allez-y. Vous pouvez tout poser.
Ah, je vais poser mon sac.
Dans
et
votre
tout.
Sac, vous mettez tout dans le sac. Que les chiens ne mangent pas le sandwich.
C'est mon petit déjeuner.
Eh bien, justement. Allez-y. Comme ça, vous allez comprendre que déplacer des clôtures, c'est facile.
Allez-y. Donc, je prends la clôture en main.
Vous prenez la clôture.
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette clôture? C'est parce qu'en radio, il nous faut des images.
Oui. Donc c'est un piquet en plastique, je crois, avec une pointe métallique, hein, tout simplement. Un filet qui est contre la terre, qui n'est pas électrifié. Et après, on a 8 fils électrifiés. Voilà. Ouais. Donc le principe, c'est ramasser. Allez-y.
C'est à mon tour, ok.
Voilà.
Bon, bah, guidez-moi alors quand même. Parce
allez-y.
Que... Donc j'avance. J'arrive à un nouveau piquet.
Voilà, avec la main gauche.
Avec la main gauche, je le saisis.
Vous le relevez.
Oh. Voilà. Je le prends dans ma main droite. Et voilà que je suis amené à devenir apprenti berger, en formation accélérée. C'est bien payé ?
Allez-y. Attention, vous allez mélanger.
Okay. Voilà.
Avance.
Hop.
Avance. Hop. Avance. Allez. Avance. Avance. Avance.
Et voilà.
Maintenant, pour le jeu. Vous me la replantez là, la descente, allez-y.
Vous rigolez ?
Non, parce que vous m'avez dit, avec des clôtures de 1,50 m, ils sont protégés. Vous imaginez, 1,50 m, c'est le double de poids, le double.
Ouais.
Quand vous devez enlever, planter ça tous les jours, pas toujours dans des endroits aussi faciles que ça.
Bah là, il y a déjà une petite pente quand même.
Oui, mais il y a une petite pente, mais c'est régulier. Quand vous êtes en alpage, là-haut, c'est pas du tout la même chose là-haut, hein. Ouais. Le sol n'est pas le même, c'est ça que je veux vous faire voir. C'est pas le fait de me donner, m'enlever du travail. C'est pas ça, je m'en fous. Non, vous comprenez ce que je veux vous dire ?
Tout à fait.
Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est très facile de dire, il faut des clôtures. Des clôtures, oui, mais après c'est le poids.
Oui.
Vous comprenez ?
Jean-Pierre Imbert revient encore sur la taille des troupeaux.
Mais aujourd'hui, quand vous installez un jeune agriculteur, on appelle ça l'EPI, l'étude prévisionnelle d'installation, en viande, c'est 400 brebis minimum. 400 brebis minimum. Mais qu'est-ce que ça fait comme revenu un agneau ? C'est que dalle. Nous, on vit essentiellement avec des aides, c'est 50% du revenu. Voilà, ça s'arrête là. C'est pas, faut pas chercher au contre.
Mais ça vous attriste pas justement de vivre avec 50% d'aide ? Alors que vous travaillez un nombre d'heures incalculable.
Alors je vais vous dire, en 2015, j'ai été contrôlé. On se dit bonjour avec le contrôleur. J'ai dit, je vous offre le café. Il me dit, ouais, pas de problème. Je viens vous contrôler et vous savez pourquoi ? J'ai dit, pour telle et telle chose. Il me dit, ouais, pas de problème. Et il me dit, vous savez pourquoi on vous donne des primes ? C'est pour aider le citoyen moyen à avoir un pouvoir d'achat correct. C'est pas pour nous aider, c'est pour aider le citoyen moyen à vivre, c'est tout. Si on vendait notre kilo de viande au prix normal, il serait le double de ça.
Hein ? On mangerait peut-être moins de viande alors.
Et puis, ça ferait quoi? C'est pareil. Si, mais parce qu'on parle de viande, mais on pourrait parler de légumes, on pourrait parler de tout ce qu'on veut. En 1985, je vendais un kilo de viande d'agneau 36 francs. Faites le rapport en euros, ça fait 6 euros... Ouais, on va dire 6 euros et des brouettes. Aujourd'hui, l'agneau, il est un peu plus cher, il est à 7 euros et des poussières. Chercher l'erreur, c'est pas moi qui l'a cherché. C'est tout.
Mais si demain on vous disait, monsieur Humbert, on vous paye votre prix d'agneau à un prix qui vous permet de vivre sans aide et avec un troupeau de 100 animaux?
Je suis le premier, mais après, la dernière personne qui est venue contrôler Annick, la dame, elle me dit, mais je préfère aller contrôler monsieur Machin qui en a 12 000. 12 000. Elle me dit, mais c'est plus facile d'aller contrôler 12 000 brebis que de venir vous contrôler chez vous avec 200 et quelques. C'est tout. C'est le système qui est comme ça. On le changera pas, hein, de toute façon.
Jean-Pierre Humbert est plutôt amer. Il me dit se sentir impuissant. Puis il s'arrête de parler quelques instants. Je le vois contempler le paysage, ces alpages de Saint-Véran. Et me revient alors en tête le slogan de la commune, « Là où les coqs picorent les étoiles ». Saint-Véran qui abrite l'un des plus beaux ciels du monde. Je demande alors à notre berger s'il prend encore le temps de l'observer, de l'apprécier, ce ciel.
J'apprécie pas que le ciel, hein, j'apprécie tout le monde. Tout ce qui est autour de nous. Hein, c'est vrai qu'on a un ciel que je pense qu'on voit pas beaucoup d'endroits. Quoi, la pureté... Le nombre d'étoiles qu'il y a, c'est bien. Voilà. Il y a au moins l'étoile du berger. C'est la
Parmi les vivants, c'était la deuxième étape de Passe-Montagne, une série réalisée avec Elena Verrier. Dans notre prochaine étape, l'empreinte du touriste.
On consomme du Mont Blanc comme on consomme une activité dans un parc d'attractions.
À très vite en altitude, là où se cristallisent les questions d'aujourd'hui. Et d'ici là, tendresse et caresse à l'oreille.